Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Nous avons pu voir il y a 2 semaines, je crois bien 3 semaines, moi et ma maison, simplement la première partie. Et nous avons pu voir le rapport entre la famille de nom, l'attachement par rapport à notre famille terrestre et aussi la famille nouvelle que nous avons en Christ. Parce que nous avons une nouvelle identité en Jésus, en Christ, et l'importance de l'amour qui fait de nous une famille. Nous avons pu voir aussi que Dieu nous incluait dans la famille divine. Nous étions participants au corps, participants à cet héritage. Et nous avons lu ce passage, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Amen. Et le second qui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Si vous vous rappelez, voilà, que le Seigneur nous montre encore combien il est important d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Et j'aimerais maintenant passer sur la deuxième partie de ce verset. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Vous savez que le travail en famille est le métier et la collaboration la plus ancienne du monde, la plus ancienne. On le voit déjà au tout début, hein, entre Adam et Ève, avec leurs enfants. On voit déjà, dès le début de la création, l'importance de servir ensemble. De servir en tant que famille. Et pendant des milliers d'années, c'était chose normale que les enfants aident leurs parents. Qui ont connu ça? Ouais, quelques-uns. Travailler au champ, travailler là où notre père travaillait. Travailler aussi à l'éducation des enfants. Pendant plusieurs années, quand les familles étaient trop grandes, quand il y avait 10, 12 enfants, ça arrivait, hein, ça arrivait souvent. Et régulièrement, les familles se séparaient et les aînés élevaient les plus petits. Ils prenaient soin de leur famille et ils travaillaient tous ensemble. Tous ensemble. Et je crois qu'il y a un rapport à faire avec nous. Dans notre société où ce n'est plus chose normale de prendre part à la famille. Dans notre société où ce n'est plus chose normale d'être une famille unie. Quand on voit maintenant les familles, la plupart du temps, sont déchirées. Les familles sont détruites complètement. Et souvent la solution, c'est la séparation. Pourquoi notre première solution serait la séparation quand il y a un problème, un souci, quand il y a quelque chose qui n'est pas bon? Je crois que Dieu restaure toutes choses, qu'il peut bénir abondamment. Si un enfant a un problème avec ses parents, il quitte la maison. Si un parent a un problème avec son enfant, il le met à la porte. On le voit de plus en plus couramment. Si un couple a un conflit ensemble, avant de parler de restauration, avant de parler de bénédiction, on va parler de séparation. Je crois que ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu qu'une famille soit divisée. Même si malgré tout, on sait que dans les temps que nous vivons, nous sommes dans une ère d'individualisme. Une ère où on pense à soi-même, à mon bienfait, à mon bien-être, et pas à ce que le prochain peut vivre. Alors on va lire un passage ensemble, Éphésiens 4, si vous voulez bien. Éphésiens 4. Il est dit dans Éphésiens 4, à partir du verset 16, voilà ce que Dieu nous demande de faire. Éphésiens 4, verset 16. C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps. Et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. C'est pourquoi je vous dis ceci, et j'insiste au nom du Seigneur. ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Leurs pensées ne mènent à rien. » Je vous ai lu la version Parole de vie, vous verrez dans votre version, c'est peut-être un petit peu différent, mais ça veut dire la même chose. Et j'aime ce verset qui nous dit que c'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble. La première chose, c'est que Jésus soit au centre de nos vies. Jésus soit au centre de notre Église. Alors que la société est attachée au profit personnel, alors que la société veut tirer toujours quelque chose en retour. Une satisfaction, un bénéfice, une possibilité de service rendu. C'est si je fais quelque chose pour toi, alors tu dois faire quelque chose pour moi. Tu as une dette envers moi. Dieu pense autrement pour chacun de nous. Le Seigneur nous demande de donner sans attendre en retour. Bien sûr, il nous est parlé de l'argent, on connaît ces passages. « Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. » Bien sûr, il nous est parlé de biens matériels. Mais j'aimerais vous parler de donner dans la famille, de donner à son prochain. Il y a quelques semaines, nous avons vu l'amour. Et je vais peut-être renfoncer un petit peu le clou, Dieu aime celui qui donne avec joie, celui qui donne sans râler. Vous connaissez les gens qui râlent ? Ah, j'en connais quelques-uns. Vous savez, ces personnes que vous demandez quelque chose, et ils vont vous dire oui, mais ils vont quand même murmurer. Vous avez déjà vu ça ? C'est vous demander, de peindre quelque chose et pendant tout le long du mur, et il va murmurer dans son coin. Pourquoi ? Pourquoi dire oui dans ce cas-là ? Pourquoi le faire si c'est pour le regretter, si c'est pour râler ? Je crois que le Seigneur veut que nous partageons toujours et que nous donnons toujours avec joie, avec amour, avec affection. Jésus dira, je suis le bon berger, et le berger donne sa vie pour ses brebis. Est-ce que Jésus n'a pas donné ? Il a dit qu'il donne, mais pas comme le monde donne. Lui, il est venu alors qu'il était dans son ciel de gloire, alors qu'il était au-dessus de tout, et qu'il aurait pu rester dans son confort et dire, moi je suis dans le bien-être, je suis glorifié, je n'ai pas besoin, mais par amour pour chacun de nous. Il est venu sur la terre. Par amour, il a donné sans attendre un retour. Sans attendre un retour. On croit parfois que Jésus, il est venu juste pour nous faire du chantage. Jésus n'est pas venu nous faire du chantage. Jésus, il est venu pour des pécheurs. Il est venu sauver les pécheurs, alors qu'ils étaient encore dans leur péché. Et il propose simplement de venir à lui. Cet amour qui dépasse notre entendement. Cet amour qui est au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer, que nous pouvons faire. Dieu donne, sans attendre en retour. Alors, est-ce que nous devons donner avec intérêt ? Est-ce que nous devons donner en attendant quelque chose ? Est-ce que ce n'est pas être un chrétien ? Est-ce que ce n'est pas être un homme ou une femme de Dieu ? De donner sans rien attendre en retour. Du moment où nous acceptons Christ, que nous faisons partie de la famille, je crois que c'est un devoir de travailler pour la famille. On n'aime pas parler de ça, hein, travailler. On a assez de travail la semaine. Mais je crois que notre travail pour Dieu est différent. Si nous sommes dans la famille de Christ, si nous aimons Jésus, alors nous devons travailler. Nous ne sommes pas appelés à être seuls dans notre coin, à travailler pour nous, à travailler seulement pour notre salut, même s'il est dit de travailler pour son salut. Mais ce n'est pas seulement travailler pour moi, pour que j'aille au ciel, pour que je vive quelque chose avec Dieu, pour que j'aie une vie plus forte, mais je crois que nous devons travailler pour toute l'Église, pour tous nos frères et sœurs, et pas seulement pour nous. C'est pour l'avancement du corps que nous travaillons. Comment avoir de la croissance, avancer, et voir tout ce que nous désirons dans l'Église si nous n'aimons pas nos frères et sœurs, si nous ne travaillons pas ensemble. Colossiens 2:19 nous dit, il nous donne une indication sur le corps, il nous est dit que le chef, Jésus, dans tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Nous avons un chef, Jésus, et il restera le chef, mais nous sommes le corps. Et qu'est-ce qui nous est dit de ce corps? Comment ce corps peut tirer son accroissement? Comment ce corps peut avancer quand il est assisté, solidement assemblé par des jointures et des liens? J'aimerais qu'on regarde chacun notre frère, notre sœur qui est à côté de nous, derrière, devant nous. Est-ce que j'ai une jointure? Est-ce que j'ai un lien avec celui qui est à côté de moi? Est-ce que j'ai une jointure? Est-ce que j'ai un lien avec celui qui est devant moi? Qui peut-être s'est assis là alors qu'il n'a pas l'habitude de s'asseoir là. Peut-être qu'il est assis là mais que je ne le connais pas. Peut-être il est dans l'église plus longtemps mais je n'ai pas de lien avec lui. Est-ce que ceux de droite peuvent regarder ceux de gauche et dire « oui, j'ai des liens avec ceux qui sont de l'autre côté ». Il n'y a pas le virage nord, virage sud. Hein, il y a pas de on n'est pas en combat ce matin. Hein, mais souvent, c'est vrai qu'on prend la même place. J'ai remarqué, on prend la même place. Et surtout quand on prend la place de quelqu'un qui l'a depuis des années et des années, ça dérange. On voit quelqu'un arriver, il nous regarde et il ne sait plus quoi faire. Est-ce que je dois m'asseoir? Je dois lui dire? Je ne dois pas lui dire? Mais c'est vrai qu'on s'assoit souvent au même endroit et puis on va dans le même service et on fait les mêmes choses et je crois que c'est bien, ça fait partie de l'Église. Mais est-ce que j'ai des liens avec celui qui est de l'autre côté? Est-ce que j'ai des liens avec celui qui est au milieu? Est-ce que j'ai des liens avec celui qui est devant, derrière, autour de moi? Non, ça c'est autre chose. Est-ce que j'ai des liens, des jointures? Vous savez, pour qu'un membre tienne au corps, il faut qu'il y ait un lien, il faut qu'il y ait une jointure. Pour que le corps marche, pour que le corps avance, pour qu'on puisse tirer notre accroissement de notre Dieu. Il faut qu'il y ait cette jointure, ce lien entre chacun de nous. On cherche des moyens de tirer de l'accroissement. Hein. On va faire un événement. On va envoyer des prospectus. On va faire des chants spéciaux, on va faire, un spectacle, et c'est bien ce que nous faisons, c'est bien que ça soit varié. Mais je crois que la source de l'accroissement n'est pas là. Pour que notre Église grandisse, pour qu'elle avance, pour qu'on puisse voir toutes ces âmes qui sont en train de mourir dehors se convertir, je crois que ça commence tout d'abord par l'unité entre nous. Ça commence tout d'abord par le lien que nous avons ensemble, parce que si nous sommes solidement assemblés, alors nous tirerons l'accroissement comme Dieu nous le donne. Qu'est-ce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Ce n'est pas moi, je servirai l'Éternel. Moi, je veux faire. C'est moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le service, ce n'est pas seulement moi, tout seul. Ce n'est pas je désire m'engager seul. C'est je désire faire partie d'un tout, d'un ensemble. J'aimerais qu'on lise ensemble Acte 2. Acte 2, verset 41. C'est l'église de départ. Après que le Saint-Esprit soit venu, l'Église s'est agrandie et on voit comment ils vivent cette Église ensemble, comment ils servent ensemble. Acte 2, verset 41. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Bien sûr, on ne peut pas reproduire à la lettre ce que l'Église de départ a fait. Si je vous dis, bandez toutes vos maisons et amenez-les là. Maintenant, vous allez me dire, oh là, il part dans des choses un peu spéciales. Mais je crois qu'il y a un exemple de cœur, un exemple d'unité. Le premier mot qui m'interpelle, c'est « il persévérait ». Il persévérait comment ? Ensemble. Il persévérait dans l'œuvre de Dieu. Dans quoi ? Dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, la fraction du pain, la prière, dans l'enseignement, on peut le vivre encore. Au travers des réunions, au travers d'être ensemble et de pouvoir ouvrir la Bible ensemble, la communion fraternelle, je crois que nous sommes heureux bien sûr des sorties d'église, mais la communion fraternelle aussi c'est aller voir son frère, celui qui est peut-être dans la souffrance, celui qui est dans la détresse, passer du temps avec lui, prendre du temps à le connaître, la fraction du pain. Vous savez qu'on vit l'unité chaque dimanche, quand nous prenons le pain et le vin. C'est un signe d'unité, le pain et le vin. C'est un signe du corps de Christ. Et puis, le plus dur, la prière. Persévérer ensemble dans la prière. C'est sûrement le plus difficile. Mais je crois que c'est un fondement pour chacun de nous, pour chacune de nos vies. Si nous voulons avoir de l'accroissement, si nous voulons vivre ce qui était dit du fait qu'il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles et que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ça commence par le combat. Vendredi soir, après-midi, on a parlé du combat. Combattre ensemble, l'importance de combattre ensemble et l'importance de voir des piliers, des exemples dans la prière. Et je crois que le premier des services, quand il est dit « moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », le premier des services, c'est quoi ? C'est la prière ensemble. Je sais que c'est difficile parfois de venir. Plusieurs fois, ça a été difficile. Je me rappelle au début que j'étais converti et que je venais aux réunions. C'est difficile de venir à la prière. C'est difficile de passer une heure à être là et à prier, à combattre. On sent que c'est un combat. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, chaque fois avant la réunion de prière, quand vous venez à la réunion de prière, il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours un souci, il y a toujours un problème, toujours quelqu'un qui appelle au dernier moment, ou alors je me suis disputé avec mon époux, mon épouse, ou ça passe pas bien, ou qu'est-ce qui se passe ? La prière, c'est un combat. Et c'est sûr que c'est difficile de venir, je comprends, frères et sœurs. Mais combien si nous avons soif de voir notre Église avancer ? Il est bon de venir à la prière ensemble. On voit un moment, deux disciples qui montaient à la prière. Il nous est dit, ils montaient ensemble au temple pour prier. Et là, ils vont voir un homme qui est malade, qui est paralytique. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Un mendiant. En allant à la prière ensemble, dans l'unité, en décidant d'aller combattre, un homme a été totalement guéri et sauvé. Si nous allons à la prière ensemble, si nous vivons ce combat ensemble, alors je crois que nous verrons des âmes sauvées. Je crois que nous verrons des miracles, des prodiges. Qui veut des miracles ? Tout le monde veut des miracles. Tout le monde veut voir des prodiges. Et le Seigneur, il a décidé qu'on devait combattre aussi pour pouvoir le voir. alors que l'on puisse prendre à cœur de venir en simplicité de cœur, bien sûr, avec joie, surtout avec joie, donner toujours avec joie, pas à contre-cœur, mais qu'on puisse venir et prier ensemble, combattre. La priorité, c'est de servir au corps. Et le deuxième des services, le premier, c'est servir ensemble dans la prière. Mais le deuxième, je crois qu'un verset nous parle et nous interpelle. Pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. En fait, faire vraiment partie du corps de Christ. Faire partie de la vie de l'Église. Le service, ça va plus loin. Et je suis un peu mal placé pour le dire, mais le service va plus loin que chanter. Même si c'est un service important pour le bien et pour l'avancement de l'Église. Le service va plus loin que jouer de la musique. Le service va plus loin que faire l'enseignement des enfants. Le service va plus loin que faire le ménage de temps en temps. Ça va plus loin que ça. Je crois que le service avant tout, même si ces choses sont importantes, attention, je néglige pas ces choses. C'est des choses importantes pour notre Église, c'est des choses importantes pour qu'on puisse vivre des moments. Et on le voit dans la Bible, il y avait toutes ces choses-là, mais la première chose, pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ce verset nous dit, en fait, le service, c'est faire partie du corps et prendre à cœur l'Église, prendre à cœur le corps de Christ. C'est aimer cette Église, être passionné des frères et sœurs, passionné de Jésus, passionné de l'évangélisation, passionné des âmes. Je crois que c'est notre service. Je crois que le verset « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », c'est être passionné. Alors que cet homme dit « Mais vous devez choisir. Vous avez un choix à faire, soit d'aimer Dieu, soit d'aimer les idoles. Mais moi et ma maison, je suis passionné. Moi et ma maison, je veux servir l'Éternel. Combattre pour que l'Église ne meure pas. Prier de tout son être pour cela. Prier et prendre des nouvelles des frères et sœurs. Peut-être du membre qui est un peu malade, du membre qui est affaibli. Il nous est dit que quand un membre souffre, tout le corps souffre. Si nous voyons notre frère ou notre sœur qui est dans la détresse, qu'on puisse le relever par nos forces et en priant pour lui, mais par l'amour en premier lieu. Je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Hein. Il y a de la place pour tout le monde dans l'Église. Vous savez que si vous ne prenez pas votre place dans le service, alors il manque une place. Ce n'est pas un nombre de places limité. Et bien sûr, après on parlera bien sûr au travers d'un exemple. Bien sûr, on a parlé des chants, on a parlé de l'enseignement, on a parlé de l'entretien des locaux, on va parler aussi de l'accueil, toutes ces choses importantes. Et je crois que chacun a sa place dans ses services. Mais si on se dit, mais moi, je n'ai pas besoin de servir, alors il manque quelqu'un. Chaque personne est importante. Chaque membre de l'Église est important. Coupez-vous un doigt. Vous allez le remarquer. Coupez-vous un doigt. Coupez-vous une main. Ne le faites pas maintenant. Hein. Ne le faites pas en rentrant, sinon je vais avoir des problèmes. Hein. Mais imaginez-vous. Il vous manque un doigt. Ça paraît pas grand-chose pourtant. Mais s'il n'est pas là, il me manque quelque chose. Si vous n'êtes pas là, il manque quelque chose. Si je ne suis pas là, il manque quelque chose. Alors j'aimerais voir, avant de finir, juste trois exemples. Trois exemples, très rapidement, trois exemples de danger qui peut toucher le service dans l'Église. Le service dans la famille. On va regarder dans la Genèse ensemble. Si vous voulez lire avec moi, Genèse 4, à partir du verset 1er. Trois dangers qui peuvent atteindre notre service dans l'Église. Genèse 4, verset 1er. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » On voit cette famille, la première famille qui est venue sur la terre. Et ce couple a deux enfants, Caïn et Abel. Et c'est une famille qui aime Dieu, une famille qui sert Dieu. D'ailleurs, on le voit parce qu'ils sont nés et il nous est dit que quelques temps après, la première chose qu'il nous est dit, c'est que Caïn et Abel, ils offrent un sacrifice, ils offrent une offrande à Dieu. Donc, ils aiment Dieu. Donc, c'est une famille qui sert Dieu ensemble. Mais alors qu'ils offrent chacun cette offrande à Dieu, il y en a un qui le fait, mais avec un cœur, comme on disait tout à l'heure, il ne l'a pas fait avec joie. Il l'a fait peut-être à contre-cœur. Il l'a fait en négligeant cette offrande. Dieu ne prend pas plaisir à ça. Et il va simplement le faire remarquer. Il va dire que Abel, Dieu prend plaisir à son offrande, mais que Dieu ne prend pas plaisir à l'offrande de Caïn. Et quand on voit la réaction de Caïn, ce sont deux frères pourtant. C'est une famille où il devrait avoir des liens, une famille qui est censée être unie. Mais il va avoir un problème, c'est la jalousie, l'envie, le désir, le manque d'amour, le désir d'avoir ce que l'autre a. Vous savez que c'est un danger ça. C'est un danger la jalousie. Et même dans l'église. Quand mon frère est béni, que je ne regarde pas mon frère en disant « mais je veux ce qu'il a, je vais lui enlever maintenant. » Ça ne vient pas de Dieu. Quand j'agis mal, que je ne dise pas « c'est les autres qui ont fait, c'est la faute des autres, c'est parce qu'on m'a dit ça, c'est parce qu'il s'est passé ça, c'est parce que je n'ai pas eu l'occasion de faire comme je voulais. » C'est à cause des autres. Je crois que le diable est souvent à la porte de nos pensées, à la porte de nos cœurs. Quand il y a comme un combat, on disait tout à l'heure, voilà, comme un combat, une adversité entre les frères et sœurs, quand il n'y a pas la jointure, mais quand cette jointure est brisée par la jalousie, brisé par l'envie, brisé par « moi je veux être béni, c'est moi d'abord, moi le premier !» Alors le diable se tient à la porte et il porte ses envies sur chacun de nous pour essayer de nous faire tomber. Mais je crois que le Seigneur peut nous faire passer ça. Qui n'a jamais eu envie d'un autre ? Qui n'a jamais eu la jalousie envers un autre ? Qui n'a jamais eu envie de ce que l'autre a ? Je crois que ça nous est peut-être tous arrivé. Au moins une fois. Au moins quand on était petit. Et pourquoi lui, il a un bonbon rouge et moi bleu ? Et pourquoi on est comme ça ? Mais parfois, même dans l'église, hein, même dans la famille, on peut être comme ça. Et pourquoi lui, il a ça et moi, je ne l'ai pas ? Et pourquoi lui, il a le droit de monter et de chanter et moi, je n'ai pas le droit? Pourquoi lui, il a le droit d'être élevé et moi, non? Dieu a dit, ne faites pas de préférence. Faisons attention à ça. Il a dit aussi de faire attention à ne pas porter envie sur son frère, mais plutôt de vouloir le bénir encore plus. On a dit que quand un membre du corps souffre, tout le corps souffre. Mais je crois que quand un membre du corps se réjouit et est béni, on doit être joyeux. On doit être heureux pour notre frère. Jésus va dire d'être les serviteurs les uns des autres. De voir les autres comme au-dessus de nous-mêmes. Caïn voulait être au-dessus de son frère. Et ça a été la fin pour sa vie. Bien sûr, il a vécu après ça. Mais quelle vie loin de la face de l'Éternel. Le deuxième danger, c'est le mépris. On va lire encore un texte, si vous me le permettez. 2 Samuel 6, verset 16. Je peux le lire pour vous. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son de la trompette. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on la mit à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et David offrit devant l'Éternel des holocaustes, des sacrifices et des actions de grâce. On va un peu plus loin. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » David lui répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. » En fait, à ce moment-là, nous sommes dans un moment de fête. L'arche rentre dans Jérusalem. L'arche qui représente avant la venue de Christ, qui représente la présence de Dieu. C'est la représentation, c'est là où il y a la présence de Dieu. Nous savons que si l'arche est à un endroit, et c'était juste avant ce passage, on le voit, si l'arche est à un endroit, alors l'endroit est béni parce que la présence de Dieu est là. David comprend ce qui se passe. David comprend l'importance. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met à danser, à sauter. Vous avez dansé, sauté ce matin? Il y a quelques semaines, on a pu le faire, hein, avec quelques chants là. C'était bien, on a dansé, sauté. Et je crois que quand on le fait avec simplicité de cœur, on a dit souvent, il ne faut pas danser. Il ne faut pas danser dans l'église. Il ne faut pas sauter dans l'église. Ce n'est pas l'importance de faire, c'est l'importance comment tu le fais. Si tu le fais pour te montrer aux autres, ça ne sert à rien. Si tu le fais pour montrer quelque chose, ça ne sert à rien. Mais par contre, si tu le fais de simplicité de cœur, parce que le Seigneur te le met ça dans ton cœur. Si tu agis de telle manière avec simplicité de cœur, simplement pour le bénir, pour le glorifier, pour l'élever, alors Dieu prend plaisir. Et là, il y a cette femme, la femme de David. Elle est à la fenêtre, elle voit son mari en train de danser, sauter. Et pourtant, c'était un moment de fête, un moment de joie. C'était le moment de se réjouir. Mais elle va voir son mari danser, sauter. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le mépriser dans son cœur. David, à la fin de ce passage, rentre chez lui et il est prêt à bénir sa maison. Il rentre chez lui pour bénir sa maison. Et là, sa femme, elle lui souffle un peu dans les branches. Elle lui dit un peu ce qu'elle pense. Hein. Comment tu as pu te ridiculiser à ce point? Comment tu as pu te rabaisser comme ça? T'humilier devant le peuple. Elle n'a pas vu le cœur de David. Elle n'a pas vu que Dieu a pris plaisir à ça. Elle a juste regardé à l'apparence, regardé au regard des autres. Elle a regardé à ce qu'on pouvait dire d'eux. Le regard des autres. Le regard du prochain. J'aimerais juste faire une parenthèse, frères et sœurs. Si nous faisons les choses, ou que nous ne faisons pas les choses, parce que mon frère, qui est soi-disant de ma famille, est dans ce lieu et me voit, alors je crois que nous ne sommes pas une famille. Ce n'est pas du jugement, et je me parle à moi-même. Vous savez que quand je veux apporter quelque chose, quand je ressens quelque chose sur mon cœur, je me parle à moi-même. Mais si le regard de mon frère ou ma sœur m'empêche d'être naturel, si le regard de mon frère ou ma sœur m'empêche d'être comme je suis dans mon cœur, m'empêche de faire ce que je ressens dans mon cœur, alors où est la famille? Je disais hier soir à quelqu'un, on ne se connaît pas dans le privé, on est différent dans le privé. Parce que devant notre famille, on est naturel. Devant notre famille, notre frère sait comment nous sommes. Peut-être on peut donner une apparence devant les gens, dans le monde, dans le travail, mais à la maison, on ne peut pas donner d'apparence. Je crois que cette maison doit être une maison où il n'y a pas d'apparence, où il n'y a pas d'importance dans le regard des autres, mais que ça soit un partage de cœur. Partage de cœur. Je crois que Jésus s'est rabaissé et lui n'a pas regardé à l'apparence. Il n'a pas regardé à qui il était. Mais il s'est humilié pour nous parce qu'il nous aimait. Et l'amour, c'est ça. S'humilier pour son frère et sa sœur s'il le faut. Que l'on puisse se sentir petit devant nos yeux. Je vais conclure et il y aurait encore beaucoup à dire. Je vais conclure. À un moment du peuple d'Israël, quand ils sortent du désert, ils arrivent devant le Jourdain. Et là, ils doivent traverser le Jourdain et ils savent que derrière le Jourdain, il y a le combat. Et là, plusieurs hommes vont se dire, le terrain dans lequel je suis est beau. Eh bien, je sens le confort là, je sens que mon troupeau peut être là, mes brebis peuvent être là et que je vais prospérer. Alors, plusieurs vont dire, on construit des maisons ici et puis on reste là et on ne va pas combattre. Moïse va les regarder, il va dire, mais comment voulez-vous décourager vos frères et sœurs? Je crois que la vie de l'Église, et c'est ma conclusion pour de vrai, je crois que la vie de l'Église est notre vie à chacun. Ce n'est pas à se regarder moi-même dans mon confort, dire je suis bien là où je suis. C'est bon, je n'ai pas besoin d'aller combattre moi. J'ai une vie, elle est comme je veux. C'est bon, j'ai construit ma vie comme je voulais. J'ai pu faire comme je veux. Et simplement cette petite bénédiction d'être avant le Jourdain. Ce terrain-là, simplement, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de plus. Dieu nous appelle à passer le Jourdain ensemble et à aller combattre jusqu'au bout pour saisir la vie éternelle ensemble. Comment laisserions-nous notre frère aller combattre alors que nous, nous sommes sauvés, nous sommes dans le salut, nous avons notre bénédiction et celui qui est dans le combat et que le combat dure? Comment je ne peux pas aller combattre avec lui? Comment je ne peux pas être à ses côtés? Que le Seigneur nous aide. Un dernier verset, et c'est juste pour conclure. Ça fait 3 fois que je dis ça, mais cette fois c'est vrai. Ésaïe 6, verset 8. Vous connaissez ce passage? Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Je crois que le Seigneur nous appelle chacun de nous ce matin. Qui marchera pour nous, pour l'ensemble ? Qui marchera pour ma maison ? Qui enverrai-je pour l'œuvre de Dieu, pour le corps de Christ ? Et que chacun puisse répondre, « Me voici, Seigneur. Me voici, envoie-moi. » C'est vraiment avec amour, frères et sœurs, que j'ai pu partager ça. Et ce sera sûrement le dernier dimanche matin. Parce que vous savez qu'on part après. Et que le Seigneur puisse nous voir à marcher pour l'œuvre de Christ, parce que même si on se sépare, le corps de Christ reste le même. Frères et sœurs, par amour pour chacun de nous, que l'on puisse dire « Me voici, envoie-moi », qu'on aille au combat ensemble et qu'on puisse saisir la victoire ensemble. Amen.